Radio Éthique vous présente la chronique de Chantal Rialan, Mon Big Bang intérieur.
Chantal, vous êtes spécialiste en psychogénéalogie et nous avons envie de parler ensemble de cette famille qui vit en nous et de comment mieux vivre grâce à la psychogénéalogie. Alors, vous avez des conseils à nous donner ?
Ces deux livres que j'ai écrits sur le sujet. Alors, la psychogénéalogie, c'est psychologie et généalogie. Toutefois, ce n'est pas vraiment de la généalogie parce qu'on ne remonte pas au-delà des arrière-grands-parents et parfois on sait peu de choses des arrière-grands-parents. On en a 8, mais souvent après la mémoire disparaît. Alors, nous avons un inconscient personnel, nous avons un inconscient collectif, mais nous avons aussi un inconscient familial. Évidemment, la façon dont on a passé notre enfance et notre adolescence a un rôle très important. Et c'est utile de voir ce qui s'est joué pour que nous soyons vraiment libres d'être nous-mêmes. Il peut y avoir plein de choses positives dans une psychogénéalogie, mais il y a aussi des choses qui nous empêchent, qui nous freinent, qui nous paralysent, et il faut s'en libérer, bien sûr. Alors, il y a 3 mots clés en psychogénéalogie. Il y a le mot « projection », le mot « identification » et le mot « répétition ». Quand on est conçu, on est un enfant imaginaire. Nos parents fantasment que nous allons avoir certaines qualités ou le désir, ou que nous ressemblions à certains membres de leur famille qu'ils aiment. Ils attendent un garçon ou ils attendent une fille. Et donc, les premières projections, ça va être nos prénoms. On ne nous donne pas des prénoms par hasard, souvent. Et ça a un sens pour nos parents. Et puis, malheureusement, on va aussi nous donner des étiquettes parce qu'on a tendance à nous comparer avec nos frères et sœurs, avec nos cousins ou nos cousines, avec les membres de la famille. Alors, les premières étiquettes qu'on reçoit, c'est les étiquettes physiques. On a tous vu la famille s'extasier autour d'un Verseau et dire « Oh, il a les cheveux de sa grand-mère, les yeux de son grand-père, le sourire de sa maman, etc. etc. »
Tout à fait.
Et puis après, on va avoir des étiquettes sexuelles, on est un garçon, on est une fille, des étiquettes affectives, des étiquettes intellectuelles. Il y a des familles de polytechniciens où on prépare polytechnique dès la maternelle, par exemple. Et puis, nous allons faire des identifications. Bah, évidemment, pour un petit enfant, ses parents, c'est le monde. Ce sont des dieux. Alors, on apprend qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être une maman, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être un papa, on apprend qu'est-ce que c'est que le couple, on apprend qu'est-ce que c'est que le travail, on apprend qu'est-ce que c'est que la famille, on apprend des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs politiques, des valeurs religieuses. On est extrêmement influencé par ce qu'on nous transmet, ce que notre famille nous transmet. Et dans la transmission de cette famille, il y a évidemment aussi nos oncles et nos tantes, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents. Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas reliées génétiquement. Ça peut être un parrain, une marraine, un instituteur, un voisin, un ami de la famille. Tout ça va avoir une influence sur nous. Et ces projections et ces identifications vont entraîner des répétitions. Alors, il y a des répétitions qui vont nous convenir. Par exemple, dans ma famille, mon père était médecin, il adorait ses patients. Je suis psychothérapeute, j'adore mes patients. Je suis en pleine répétition en psychogénéalogie, mais ça me convient. Par contre, il y a des répétitions qui ne nous conviennent pas du tout. Par exemple, on a été battu et on rebat son fils, par exemple, alors qu'on ne le voudrait pas. Et puis parfois, on essaye de faire tout le contraire de ce qu'on a connu. Si par exemple, on a eu un père très autoritaire, on essaye d'être très cool. Mais c'est pas être libre. Ce qui est important, c'est d'être soi-même. C'est pas être le contraire de ses parents. Alors, l'originalité de la psychogénéalogie, c'est que ça nous apprend à voir nos parents comme des êtres humains, comme tout le monde, avec leurs névroses. Et très souvent, nous souffrons de choses qui n'ont rien à voir avec nous et c'est très libérateur d'en prendre conscience. Par exemple, on est une fille et on est dans une famille, on est né dans une famille qui préfère les fils. Par exemple, nos parents ont tendance à projeter l'ordre de leur propre fratrie, de leurs frères et sœurs, nos oncles et tantes, sur nous. Si papa a eu un problème avec son frère aîné, qu'il est en conflit et que nous sommes le fils aîné, et il y a de grandes chances que papa projette son frère aîné sur nous. À l'inverse, on est la deuxième fille, maman est l'aînée, et elle a une sœur avec qui elle ne s'entend pas. En tant que deuxième fille, on risque d'écoper les projections de notre tante. Et ça perdure. J'ai vu beaucoup de cas en entreprise où une patiente, par exemple, avait un conflit avec une collègue qu'elle ne pouvait pas saquer, qui l'énervait, c'était un drame. Alors que ses autres collègues n'étaient pas irrités par cette collègue comme elle-même l'était. Et on s'aperçoit souvent que cette collègue représente la sœur avec qui elle a des problèmes. On a tendance à voir la vie avec des lunettes déformantes. Et donc, la psychogénéalogie nous fait comprendre que nos parents nous ont élevés, pas en fonction de nous, mais en fonction de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et puis, j'ai écrit le deuxième livre, qui est la suite, « Vivre mieux grâce à la psychogénéalogie », parce qu'il y avait des déformations. Je reçois parfois des emails de personnes qui me disent « je voudrais faire ma psychogénéalogie » comme si c'était le miracle, qu'on allait découvrir des secrets de famille qui allaient tout changer dans leur vie. C'est pas comme ça que ça marche, la psychogénéalogie. D'abord, on ne fait pas une psychogénéalogie, point final. C'est pas une chaîne de malheur. Ça nous a donné la vie et nous avons à travailler notre psychogénéalogie comme un riche terreau dont on peut faire plein de choses. Et la psychogénéalogie, ça fait partie d'une psychothérapie. Ça se fait pas toute seule. Et je me suis intéressée dans ce livre à voir comment nous développer en étant une personne équilibrée et heureuse. Donc j'ai parlé beaucoup de nos quatre énergies vitales, nous en avons quatre. D'abord, l'énergie matérielle qui nous permet d'être en vie et qui comprend notre corps, la matière, notre toit sur la tête, notre voiture, tout ce qui nous permet d'être en vie. Et puis aussi l'argent. Et puis aussi la notion de place qui est très peu étudiée en psychologie. Parce que les fondateurs de la psychologie et de la psychanalyse se sont beaucoup plus intéressés aux parents qu'aux frères et aux sœurs. Or, si l'on y réfléchit bien, ce qui nous ferait souffrir à 99%, c'est un problème de place. Quand on est petit, on a l'impression qu'on est le mal-aimé par rapport à nos frères et sœurs. Ensuite, on souffre au travail parce qu'on n'est pas à sa place, parce qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas reconnu. On souffre affectivement parce qu'on ne trouve pas sa place avec son conjoint, par exemple. On souffre parce qu'on n'a pas notre place avec nos parents. La notion de place est extrêmement importante pour vivre bien. Nous avons une deuxième énergie, qui est l'énergie sexuelle et créative, c'est la même. Et quand on parle de créativité, la plupart des patients me disent « Ah, moi, je ne sais rien faire. Hein. Je ne dessine pas, je ne peins pas, je ne fais pas de sculpture, je ne fais rien avec mes mains. » Mais nous sommes tous créatifs parce que nous créons notre art de vivre. Donc, c'est très important de se créer un art de vivre qui nous correspond. La troisième énergie, c'est notre énergie affective. Et la quatrième énergie, c'est notre énergie intellectuelle. Donc, comment développer ces quatre énergies vitales de façon harmonieuse? Autre chose extrêmement importante, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, nous avons un homme intérieur et une femme intérieure. C'est tout simple à comprendre. Par exemple, dans l'énergie intellectuelle, l'homme intérieur, ça va être le côté ordinateur de notre cerveau. J'analyse, je compare, je hiérarchise, je déduis, je décide, j'agis. Et la partie féminine, ben ça va être impalpable, ça va être notre intuition qui n'a rien à voir avec le côté logique de notre cerveau. Et puis, je parle aussi des structures psychologiques. Qu'est-ce que c'est l'hystérie? Qu'est-ce que c'est la paranoïa? Qu'est-ce que c'est la structure schizoïde? Comment mieux se comprendre? Comment mieux vivre? Comment mieux communiquer?
Donc, chers auditeurs, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous recommande les deux ouvrages de Chantal Rialan, « Cette famille qui vit en nous » et Vivre mieux grâce à la psychogénéalogie.
Retrouvez les conseils de Chantal Rialan sur sa page Facebook Mon Big Bang Intérieur.